1 Pierre chapitre 5 verset 7. Savez, je crois que quand Dieu parle, il veut agir aussi dans nos vies. Et la parole de Dieu est annoncée afin qu'il se passe quelque chose dans notre cœur. Alors on va lire ensemble ce texte et je vais partager avec vous ce matin ce que je crois être la pensée de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Amen. Je voudrais qu'on prenne également Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et puis, on va prendre enfin un texte dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel. Alors, nous allons lire plusieurs passages pour voir ensemble une histoire qui nous parle de la prière particulièrement. Donc dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, voilà, nous allons lire les 20 premiers versets. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, le nom de l'une était Anne, et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles, mais il donnait à Anne une part double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin, pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seule ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligée, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Amen. Nous pouvons ce matin être dans le même état que ce que nous avons lu au verset 7. Je vous relis le verset 7. « Toutes les années, il en était ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait pas. » Nous pouvons venir dans ce lieu, mois après mois, année après année, avec un chagrin, avec une peine qui demeure. Et le Seigneur le voit, il connaît nos cœurs. Et ce matin, Dieu veut venir vers nous parce qu'il désire nous libérer d'un poids. Nous avons lu dans le premier texte qu'il prend soin de nous. Nous avons vu cette invitation de Dieu à se décharger sur lui de tous nos soucis. Pourquoi pouvons-nous nous décharger sur lui de tous nos soucis? Quand nous regardons notre monde, nous voyons un monde qui est chargé. Nous voyons tellement de problèmes, tellement de soucis. Mais pourquoi les enfants de Dieu peuvent se décharger sur lui de tous nos soucis? Parce que la Bible nous dit dans Isaïe 53 que Jésus-Christ à la croix du calvaire a porté nos douleurs et nos souffrances. La parole de Dieu nous dit qu'à la croix du calvaire, Jésus a porté nos douleurs et nos souffrances. Et nous voyons, et Dieu voit son peuple prier, mais le Seigneur s'attriste de ce que son peuple prie, mais garde et retient le poids, le fardeau, la peine qui est là. Son cœur s'attriste parce qu'il y a 2000 ans, il a tout accompli pour nous libérer aujourd'hui. Et alors que je préparais ce message, je priais. Le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est le titre de mon message, ce que j'appelle le transfert dans la prière. Qu'est-ce que c'est que le transfert dans la prière? Nous allons le voir. Nous pouvons prier, nous pouvons parler à Dieu, mais rester dans une tristesse, rester avec un poids qui est là sur notre cœur. Nous pouvons prier pendant des années tout en gardant nos combats et nos difficultés. Et le Seigneur veut nous inviter ce matin à un transfert dans la prière. Qu'est-ce que c'est qu'un transfert? C'est de déposer nos fardeaux. Parce que lorsque je dépose mon fardeau, lorsque je transfère mon fardeau, eh bien Dieu me donne en échange sa paix. C'est ce qui s'est passé pour cette femme Anne. La Bible dit qu'elle est repartie, le cœur joyeux, pourtant la situation n'avait pas changé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, nous allons le voir ce matin, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a été au contact de Dieu, elle a déposé son fardeau et Dieu est intervenu dans son cœur. Et cette parole, ce n'est pas juste un message, une prédication, juste avec des points. C'est une parole que Dieu veut t'adresser à toi, dans ton problème, dans ton fardeau. C'est une parole que Dieu veut adresser à vous qui portez de lourds fardeaux. Parce que Jésus a tout accompli à la croix du calvaire. Amen. Et nous voyons que la première chose, dans le verset 3, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. C'est-à-dire, c'était un couple qui servait Dieu, qui aimait Dieu. Ils se prosternaient devant Dieu, ils offraient des sacrifices, mais Anne pleurait. Il y avait une peine qui était là. Et c'est l'image ce matin de plusieurs d'entre vous qui sont là, qui se prosternent devant Dieu, qui prient le Seigneur et le Seigneur le voit, mais qui porte un lourd fardeau. Quelque chose que l'ennemi a semé il y a des mois, il y a des années, quelque chose que l'ennemi a semé dans notre cœur et qui vient être là comme quelque chose qui nous empêche d'être dans la joie, quelque chose qui nous empêche d'être dans la paix, quelque chose qui nous empêche de voir Dieu même se manifester. Voyez-vous, dans ce couple, il y avait la pratique religieuse, mais le problème restait. Ce problème, c'était la stérilité de Anne. Oui, ils avaient cette pratique, mais il y avait un problème. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Il est le Dieu qui résout les problèmes. Il est le Dieu qui donne une solution aux problèmes. Il voit son peuple, il voit ton cœur, il te voit venir dimanche après dimanche. Mais aujourd'hui, ce matin, il a décidé de mettre un terme à ta souffrance. Il a décidé de t'inviter à déposer ton fardeau, à transférer ton fardeau. Il y a notre part à faire. Les choses ne se font pas toutes seules. Jésus a tout accompli à la croix, mais il y a notre part. Et notre part, vous savez, elle est simple. Notre part, c'est de croire. Et ce matin, le message va être donné afin que tu puisses croire que c'est possible. Que c'est possible pour toi d'être déchargé. Ils avaient donc une pratique religieuse, mais ce seul problème, eh bien, il détruisait toute une famille entière. Ce problème détruisait toute la famille. La stérilité de Anne amenait le mari à donner plus à Anne. Et le fait que le mari donne plus à Anne, ça amenait Pénina à être méchante avec Anne. Et Anne souffrait elle-même de ce problème. Toute la famille était dans la tristesse, il y avait comme cette semence de mort dans cette famille. Pourtant, ils aimaient Dieu, ils priaient Dieu. Mais il y avait quelque chose là que Dieu voulait régler. Et tu peux être comme cela ce matin. Un problème qui détruit ta famille, malgré bien le fait de venir. Un poids qui est là, qui joue sur tous les domaines de ta vie. Ce poids qui joue sur ton caractère, ce poids qui joue dans ta famille, ce poids qui joue dans le travail même, ce poids qui joue dans tes relations, c'est quelque chose qui, excusez-moi l'expression, pourrit la vie. Qui est là comme on fait avec, quelque chose qui est là, qui ne part pas. Et pourtant, Christ est mort pour la délivrance. Christ est mort pour le salut, Christ est mort pour la guérison, Christ est mort pour la bénédiction, Christ est mort pour la victoire sur le péché, Christ est mort pour le pardon. Et je voudrais vous dire, ce que Christ a accompli à la croix, ce n'est pas seulement pour notre conversion. C'est pas seulement juste quand on rencontre Jésus, mais dans la vie chrétienne, nous pouvons nous appuyer sur la croix pour obtenir de Dieu. L'ennemi voit nos cœurs et Dieu voit aussi nos cœurs et il voit comment notre cœur peut être dans la culpabilité. Les yeux fixés sur le problème, les yeux fixés sur nous-mêmes. Dieu te dit ce matin, lève les yeux et regarde le triomphe de Christ à la croix. C'est en regardant à Christ qu'il a accompli que nous pouvons trouver ce repos. Ensuite, il nous est dit dans le verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Nous voyons dans ce texte, voyez-vous, Anne n'a pas prié pour prier. Vous savez, si Satan ne peut pas t'empêcher de prier, il t'amènera à prier pour prier. Parce que ce qui intéresse Satan, c'est qu'il y ait la mort dans ta vie. Alors, si tu pries qu'il y a la mort pour Satan, ça va. Il n'y a pas de problème, mais le but de Dieu, c'est que tu pries pour recevoir. Nous ne prions pas pour prier, nous prions pour recevoir, nous prions pour toucher Dieu, nous prions pour que la vie de Dieu vienne. Et ce texte nous montre qu'à un moment donné, Anne a prié pour que quelque chose change. Il y avait toutes ces années, il montait au temple et peut-être que Anne a fait des prières. Mais c'était des prières certainement religieuses, je ne sais pas, le texte ne nous le dit pas. Mais ils montaient, ils offraient, c'était comme ça d'année en année. Mais il y a un moment donné, elle a décidé, elle a cru que Dieu avait une réponse dans son problème. Et là, à ce moment-là, eh bien, Anne s'est tenue devant Dieu et elle a commencé à prier. Et nous voyons dans ce texte, eh bien, que Dieu a répondu. Et je voudrais vous dire ce matin que Dieu aime ses enfants et que Dieu veut répondre aux besoins de ses enfants. Pour ceux qui sont parents et qui ont des enfants, je ne sais pas si ça vous ferait plaisir que votre enfant vous demande quelque chose. Vous dites, papa, est-ce que tu peux me donner ça? Et puis, vous voulez lui donner et qu'il continue à demander, tu peux me le donner? Je dis, oui, je te le donne. Tu peux me le donner? Oui, je te le donne. Et qu'il ne le prend jamais. C'est ce que nous faisons parfois dans la prière. Parce que l'enfant ne croit pas vraiment que son père veut lui donner. Parce que nous ne croyons pas vraiment que Dieu veut nous donner. Nous regardons à nous-mêmes, nous regardons au passé, nous regardons aux oppositions et nous nous disons, mais c'est comme ça, les choses ne peuvent pas changer. Bien-aimé, Jésus est venu pour nous libérer d'un poids et d'un fardeau. Il désire nous donner quelque chose ce matin. Pas te donner quelque chose de général, il désire te donner quelque chose de précis. Il désire te libérer de ce qui pèse sur ta vie. Et nous voyons que le but de Dieu, eh bien, c'est de donner parce qu'il aime ses enfants. Il t'aime, il vous aime. Même si nous ne sommes pas parfaits, même si nous chutons, même si ce n'est pas toujours cela, il nous aime. Il nous aime, il a donné sa vie pour cela. S'il nous aime au point de donner sa vie, ce n'est pas pour que nous continuions avec un poids sur nos épaules, mais il veut nous libérer. J'ai noté, il y a toutes sortes de prières, mais ce que Dieu désire, c'est que nous prions pour recevoir. Il y a la prière religieuse, c'est prier pour l'apparence, prier pour se donner une bonne conscience ou prier par habitude. Je prie parce que j'ai l'habitude de prier. Je prie pour qu'on entende ce que je vais dire. Je prie pour me donner bonne conscience, pour dire, bon, au moins t'as prié aujourd'hui. Dieu dit non, je veux que tu pries pour recevoir. Bien sûr, la parole de Dieu dans Philippiens 4:6, elle nous parle de différents types de prières. Il y a la supplication, les actions de grâce, il y a toutes sortes de prières. Mais ce matin, je voudrais vraiment parler de cette prière où je demande et je reçois. Ce qu'on appelle la prière de requête, où je demande quelque chose et je reçois. Il y a aussi la prière superstitieuse. Je prie et j'espère que Dieu va faire quelque chose. Ce n'est pas la prière que Dieu attend. La prière que Dieu attend, c'est une prière de foi où nous nous appuyons sur ce que Christ a accompli pour recevoir. Si nous prions, nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous n'avons pas d'assurance parce que nous savons que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Si nous prions, nous nous appuyons sur ce que nous voyons, alors nous déprimons. Nous n'avons pas d'assurance parce que ce que nous voyons est complètement contraire à ce que nous voulons voir. Mais nous nous appuyons sur la croix, ce que Christ a accompli, pour dire « Seigneur, tu m'es favorable. Tu me regardes et tu vois Christ en moi. Et parce que tu vois Christ en moi, tu m'es favorable. » Est-ce que tu sais que Dieu t'est favorable? Pas parce que tu es bien, parfait, mais Dieu t'est favorable parce qu'il y a Christ en toi, parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et si ce matin, quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, il peut le faire. La Bible dit qu'à la croix du calvaire, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Cela veut dire quoi? Eh bien, que maintenant que j'ai Jésus, j'ai un accès à Dieu. Alors l'ennemi le sait, alors il envoie toutes sortes de pensées pour nous empêcher de croire qu'il y a cet accès. Pour nous empêcher de dire, mais ce n'est pas pour toi. Dieu est lointain, Dieu ne t'écoute pas, regarde ta vie, etc., etc. Toutes sortes de pensées qui te font perdre la foi. Le Seigneur veut nous rappeler Eh bien, qu'à la croix, il a tout accompli pour qu'il y ait cet accès. La prière superstitieuse, j'espère, mais il n'y a pas de conviction. Il y a également la prière monologue, je parle à Dieu, je parle, mais je ne l'entends jamais. Je parle, mais je n'ai pas de réponse. Cette prière épuise. Et j'ai marqué les deux grands drames dans la vie des chrétiens, c'est premièrement les chrétiens qui ne prient pas, se privent de l'action de Dieu. Et deuxièmement, les chrétiens qui prient, mais qui ne croient plus, qui ne s'attendent plus à Dieu. Et ce matin, je crois que Dieu est en train d'agir dans notre cœur pour renouveler cette attente. Est-ce que tu crois que Dieu veut faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu reçois? Pendant que, vous savez, la prédication est donnée, vous avez la parole qui est donnée, et en même temps, l'ennemi vous envoie des raisonnements. Et c'est vous qui décidez si vous croyez la Bible ou si vous croyez les raisonnements qu'il vous envoie. J'étais jeudi dernier, nous prions, et pendant la prière, l'Esprit de Dieu a parlé. Il a donné une parole. Il a dit, voilà, il y a quelqu'un, alors qu'on parlait de la prière, de recevoir, il y a quelqu'un qui pense que Dieu répondra dans longtemps. Et cette pensée que Dieu répondra dans longtemps vient comme le bloquer, vient l'empêcher de recevoir. Et Dieu est en train de parler en amenant à voir ce que Dieu a fait dans la vie de Saul de Tarse, comment d'une manière puissante, instantanée, Dieu a agi. À partir du moment, écoutez bien frères et sœurs, à partir du moment où je prie dans la foi, le Saint-Esprit se met à l'œuvre. Bien sûr qu'il y a un temps. Il y a parfois un temps parce que quand nous prions par exemple pour notre famille, les cœurs sont durs, donc le Saint-Esprit agit et il y a tout un temps qui est là. Mais quand tu pries, sache que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et il nous faut persévérer. La Bible nous le parlera dans Luc 18. Elle nous dira le problème. Ce n'est pas que Dieu répond ou répond pas. Le problème, il dira au travers de cette femme avec ce juge inique qui dit « Fais-moi justice, fais-moi justice. » Cette femme persévère, fais-moi justice. Et un bout d'un moment, le juge qui est inique, ça lui casse la tête. Et il lui dit « Voilà, je ne vais pas le faire parce que je t'aime beaucoup, mais je le fais parce que tu me casses la tête. » Et il fait justice. Et Dieu dit « L'Éternel, Dieu fera promptement justice. » Dieu désire répondre, mais il pose la question, mais trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés, nous avons besoin de croire que Dieu veut nous répondre, de croire que Dieu nous est favorable, de croire que Dieu a quelque chose pour nous. Besoin simplement de le croire. Nous pouvons prier par nos propres forces et parfois nous prions pour convaincre Dieu, mais Dieu, nous n'avons pas besoin de le convaincre, nous avons besoin nous-mêmes d'être convaincus. Que Dieu veut le faire plus que nous, que Dieu veut nous répondre, parce qu'il nous aime. Il y a tous ces versets dans la Bible qui sont extraordinaires si nous les croyons. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Bien souvent, nous connaissons, nous savons mettre en pratique la première, mais il est tout aussi important de mettre en pratique la deuxième partie du verset. La première partie nous parle de la prière. Tout ce que vous demanderez, en priant, vous demandez, mais la deuxième partie peut être invisible, mais qui est réelle, et nous dit, croyez que vous l'avez reçu. Nous savons prier, mais il est tout aussi important de croire que ce que nous avons demandé, nous le recevons. Voilà pourquoi d'autres textes de la parole de Dieu nous invitent à prier dans sa volonté. Parce que Dieu agit dans sa volonté. Il y a juste un texte qui dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, ou parce que vous ne demandez pas. Quand on demande de mal, c'est pour satisfaire nos convoitises. Mais quand tu pries pour le salut des membres de ta famille, j'aimerais te dire que tu es dans la volonté de Dieu. Quand tu pries pour que le fardeau sur ta vie soit enlevé, tu es dans la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur désire faire. Il y a ce texte en Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que tu crois que Dieu écoute? Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Le Seigneur répond. Et en réalité, pourquoi nous prions, nous ne recevons pas? Ce n'est pas le problème, ne sera pas du côté de Dieu. Parce que Dieu a pourvu et Dieu est prêt à faire. Mais bien souvent, ce n'est pas non plus le problème si nous prions pas, bien que ça peut être cela. Mais bien souvent, c'est problème de foi. Nous croyons que Dieu répond, mais voilà. Alors que nous croyons, le diable le voit que nous croyons et le diable vient envoyer des raisonnements, des pensées, des sentiments pour venir bloquer la foi. Et donc nous croyons, mais en même temps nous acceptons certains raisonnements. Et ces raisonnements viennent annuler notre foi. Et de ce fait, nous ne voyons pas l'action de Dieu. Et nous croyons même que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a laissés, que Dieu n'a pas agi, Dieu n'a pas répondu. J'ai pris un petit exemple pour illustrer ce que je dis. Imaginez un directeur qui a une très bonne réputation et qui vous dit « Voilà, je vous embauche, venez demain pour commencer. » Oh, vous avez alors la foi, la confiance. Et parce que vous avez la foi c'est une assurance, une démonstration. Parce que vous avez cette assurance, eh bien demain vous allez vous présenter parce que le directeur vous a dit qu'il vous embauche. Il y a cette foi, il y a cette assurance, mais voilà, avant que demain arrive, il y a une autre voix qui vient. Et l'ami de cet homme lui dit, tu sais, ce directeur, il t'a dit cela, mais ce n'est pas vrai. Tu sais, ceux qui sont dans l'entreprise, ils sont malheureux. Et voilà un combat. Il croit dans le directeur, mais en même temps, il y a une pensée qui vient contre ce qu'il croit. Et c'est là qu'il décide, il choisit soit de continuer à croire le directeur, soit de croire la voix de son ami, cette voix familière qui représente la voix de notre âme, nos pensées, nos raisonnements. Et donc, il peut croire au départ, mais parce qu'il entend la voix et parce que finalement, il commence à croire ce que son ami a dit, commence à croire que le directeur est mauvais, il ne va pas se présenter le lendemain et il va passer à côté de ce qui était prévu. C'est comme ça que Satan fait. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu parle ce matin et il veut agir. Et il suscite la foi. La vie vient dans notre cœur. Et quand vous allez sortir de cette réunion, Satan va vous parler. Vous dire, ce n'est pas possible. Ce qui est dit, c'est faux. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu. Celui qui demande avec foi, la Bible dit que Dieu répond. Demandez, vous recevrez. Si Dieu l'a dit, est-ce que Dieu peut mentir? Dieu ne ment pas, Dieu est vrai. Mais nous avons besoin de croire plus ce que Dieu dit que les pensées, les forteresses qui sont là en nous. Toutes ces forteresses qui demeurent et qui nous empêchent de croire. Vous remarquerez que la parole de Dieu dit dans Matthieu 17, 20, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Vous remarquez que la foi est comparée à le plus petit grain. Pourquoi? Le plus petit grain, la foi, il n'y a pas besoin qu'elle soit grande. Parfois, on a la pensée qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de foi pour que mon petit problème soit résolu. La parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole de Dieu dit une toute petite foi, la foi simple d'un enfant, mais c'est une foi qui n'est pas polluée par des raisonnements. Elle est toute petite, mais il n'y a pas d'autre semence. Il y a seulement cette semence. Et cette semence, parce que nous croyons la parole et parce que nous protégeons notre cœur de toutes sortes de raisonnements qui veulent annuler la parole, nous croyons cette parole et alors nous voyons la parole s'accomplir. Et quand nous voyons la parole s'accomplir, notre foi augmente. Et c'est de cette manière que nous pouvons voir de plus en plus Dieu agir dans notre vie. Il dit une toute petite foi ce matin. Si simplement tu te dégages par le Saint-Esprit des raisonnements, l'Esprit de Dieu éclaire sur des pensées, des raisonnements qui bloquent, je vais en parler tout à l'heure, et tu décides de croire que Dieu veut intervenir, tu décides de placer tes regards sur ce que Christ accomplit, la mort et la résurrection, tu décides de croire ce que Dieu dit. Vous savez que la Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et vous savez, l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est une belle chose, mais ce n'est pas parce qu'il habite en nous qu'il se manifeste. Parce que c'est soit l'esprit qui se manifeste, soit les pensées de ton âme. Il y a un combat et c'est ça le combat spirituel. C'est de croire la parole de Dieu. Quand tu commences à croire la parole, l'esprit de Dieu se manifeste. L'esprit marche toujours avec la parole. Mais quand tu commences à regarder à tes sentiments, quand tu commences à regarder à tes pensées et tu laisses des choses se développer dans ton cœur comme le manque de pardon, comme l'amertume, comme la colère, toutes ces choses, ça vient comme bloquer. Et la seule chose que le Saint-Esprit peut faire, c'est s'attrister et t'amener à la repentance. Faut pas résister. Faut se soumettre à l'Esprit parce qu'il nous amène à la repentance pour nous communiquer sa joie et sa paix. C'est ce qu'il désire faire. Nous voyons que, pour revenir au texte de Anne, il y a des prières où seul Dieu est capable de répondre. Quand Anne avait son problème, même si son mari était gentil, son mari lui donnait une portion double, son mari faisait tout ce qui était nécessaire, il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Même si un homme, même si les gens proches autour de toi veulent t'aider, veulent te faire du bien, une tape sur l'épaule, Dieu te bénisse, c'est bien tout cela, mais à un moment donné, il faut une touche de Dieu, que Dieu intervienne. L'homme ne peut pas remplacer l'action de Dieu. L'homme ne peut pas donner ce que Dieu donne. C'est l'image de ce texte. Et on voit qu'Elkana dira « Je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ». Non, le problème de Anne, il ne pouvait pas être comblé par cela, par son mari. Elle avait besoin de Dieu. Elle avait besoin de Dieu. Vous savez, nos souffrances sont un appel à la prière afin que Dieu intervienne. Ta souffrance que tu vis, en fait, c'est Dieu qui est en train de t'appeler pour que tu puisses sortir. Et dans nos souffrances, la Bible dit sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Elle était là. Il y avait l'opposition. Et c'était chaque année. Et elle pouvait, avec la souffrance, se plaindre. Elle pouvait se renfermer sur elle-même. Elle pouvait pleurer. Elle pouvait faire cela. D'ailleurs, elle l'a fait pendant longtemps. Mais à un moment donné, elle a compris que dans la souffrance, Dieu avait autre chose pour elle. Que Dieu l'appelait à autre chose. C'était le temps, c'était la volonté de Dieu, c'était maintenant que ce temps de souffrance cesse. Il est vrai qu'il y a la souffrance pour le nom de Jésus, qu'on ne peut pas éviter. Mais il y a des souffrances où Dieu veut nous libérer. Dieu veut nous délivrer. La souffrance est un appel. Ton insatisfaction, eh bien, c'est un appel. Dieu t'appelle. Il te dit, j'ai quelque chose à te donner. J'ai quelque chose pour toi. Il y a des souffrances. La parole de Dieu nous montre qu'elle pleurait et elle ne mangeait pas. Comme une dépression. Vous savez, quand on laisse la souffrance, ça se développe. Autant quand tu reçois la parole de Dieu, ça se développe, mais quand tu reçois les pensées de l'ennemi, ça se développe aussi. Et ça t'enfonce de plus en plus. La souffrance qui est là. La déception des événements passés. Une déception, parfois, et c'est ce qui s'est passé dans ce texte, l'ennemi a essayé d'amener Anne à s'irriter contre l'Éternel. C'est toujours ce que Satan fait. Satan veut t'amener non seulement dans la souffrance, mais te faire croire que c'est Dieu le responsable de ta souffrance. En réalité, il est en train de t'amener contre ta seule solution. C'est ce qu'il a voulu faire. Il a porté à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Il voulait l'amener contre l'Éternel. Et peut-être tu es là ce matin et tu en veux à Dieu. J'aimerais te dire que c'est un mensonge de l'ennemi. Ce n'est pas Dieu ton ennemi, mais c'est Satan, mais il se déguise. Et ce matin, tu peux décider de dire, je ne veux plus, je veux laisser cette colère. Pardonne-moi, Seigneur, tu es ma solution. Tu es ma solution. J'ai vu des gens révoltés contre Dieu comprendre, saisir par l'esprit le piège dans lequel ils étaient tombés et puis simplement se positionner et sortir de leur souffrance. Sortir de leur souffrance. C'est un choix et l'amertume dans l'âme, elle versait des pleurs, elle décida de prier l'Éternel. L'amertume est là, la souffrance est là, mais elle décida de croire, elle décida de s'attendre à l'Éternel. Elle a décidé cela. Et tu peux le décider ce matin. Tu peux décider de prier pour que Dieu agisse. Prier pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Et puis, le texte nous montre que dans la prière, quelque chose va se passer aussi dans son cœur. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, je le consacrerai à l'Éternel. Hein, si tu te souviens de moi, etc., je le consacrerai à l'Éternel. Elle a compris que dans sa prière, le but, c'était pas seulement elle, mais le but, c'était Dieu, c'était de consacrer. Et parfois, nos sujets de prière, bon, c'est pour nous-mêmes. C'est pas mal en soi, on dira que c'est une première étape. Mais le Seigneur veut nous amener dans nos sujets de prière, dans nos besoins, à ce que ça ne soit pas pour nous, mais afin que ça soit pour lui. Afin que ça soit pour le glorifier, pour l'élever. Tout est pour lui, tout est pour sa gloire. Et il va y avoir ce transfert dans la prière. La Bible dit que Anne, elle parlait dans son cœur. Vous remarquerez, elle ne priait pas à voix haute. Vous savez, Dieu ne répond pas à ce que vous dites dans la prière. Dieu répond à ce qu'il y a dans votre cœur. Dieu va répondre à ce qu'il y a dans son cœur. Peu importe la forme, peu importe si ça soit fort ou pas fort, peu importe ce qu'on peut dire, ce qui est important, Seigneur, ça me tient à cœur, je m'attends à toi. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut la vérité, la sincérité. Vous savez, plus vous priez des prières, vous attendez pas à Dieu, plus vous épuiserez. Vous priez, Seigneur, bénis un tel. Vous savez plus quoi dire. Puis vous attendez pas à Dieu, c'est lourd, c'est fatigant. Dieu dit, arrête cela. Arrête de prier, commence à croire. Et si tu crois, alors tu prieras. Tu prieras. Parce que quand on croit, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois dans ton cœur, si tu places ta foi dans la parole et que tu protèges cette foi, tu ne laisses pas toutes les pensées, les raisonnements, même les sentiments qui sont là t'empêcher de croire, alors tu verras la gloire de Dieu. Elle répand son âme devant l'Éternel. Elle est vraie devant Dieu. Elle est là, il y a sa souffrance qui est là, mais elle s'attend à Dieu. Et voilà que Dieu va lui dire maintenant, va en paix. Et la Bible dit que son visage ne fut plus le même. Il y a eu un transfert. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire, un transfert. Imaginez, si j'avais un objet là dans la main, je ne sais pas si j'ai rien là sur moi, mais j'ai un objet et c'est mon fardeau. Imaginez, je ne sais pas moi, quelque chose de lourd. J'ai cet objet et c'est mon fardeau. Et vous savez, beaucoup de chrétiens avaient leur fardeau. Ils prient le Seigneur, ils disent « Seigneur, regarde mon fardeau. Seigneur, délivre-moi de mon fardeau. » Ils disent « Amen ». Ils prennent leur fardeau et ils font la journée avec. La Bible dit la prière transfert, qu'est-ce que c'est ? « Seigneur, voilà mon fardeau, je te le dépose. » Et je n'ai plus le fardeau, je mène ma journée. Le fardeau n'est plus là, mon fardeau, je l'ai déposé dans la main de l'Éternel. La seule chose que j'ai, c'est la confiance que Dieu a pris le problème en main. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. C'est invisible ce que je vous dis, mais c'est très réel. Parce que quand tu déposes le fardeau, c'est à ce moment-là qu'il y a une paix qui t'envahit. Et il y a tout un, et là vous rentrez dans un combat spirituel parce qu'il y a le danger de le reprendre ton fardeau. Mais vous avez remarqué, quand on prend notre fardeau, on ne s'en sort pas. On n'a pas la solution. Parce que les fardeaux sont lourds, on n'arrive pas. Mais quand tu remets ton fardeau à Dieu, Dieu prend les choses en main et il commence lui-même à agir dans ton problème. Et quand tu vois Dieu agir, tu dis, mais gloire à Dieu. Non seulement Dieu a agi dans mon fardeau, mais il m'a d'abord donné la paix. Je suis passé par cette prière transfert. J'ai transféré mon problème. Mais imaginez, si j'ai un objet et que je donne une partie à Dieu et je garde l'autre partie de l'objet. L'objet, il est cassé. J'ai un problème. Mon cœur, il est brisé. J'ai quelque chose de cassé. Je donne une partie à Dieu et je garde l'autre partie. Comment va-t-il réparer si tu lui donnes pas tout? Imaginez le téléphone. Je lui donne juste la batterie, je lui dis « Répare mon téléphone, je garde tout le reste. » Comment Dieu va réparer si tu lui donnes pas tout? Dieu veut ce matin que tu lui donnes tout ton problème. Et lorsqu'il a tout le problème en main, il peut réparer. Vous connaissez peut-être l'histoire de cet homme qui avait sa montre cassée, les aiguilles ne marchaient plus. Alors il va chez l'horloger et il apporte les aiguilles. Alors l'horloger dit « Mais si vous voulez que je répare ma montre, faut me donner la montre. » Il dit « Mais c'est pas la montre qui a un problème, ce sont les aiguilles. » L'horloger a dit, mais il me faut quand même la montre pour réparer les aiguilles. Mais non, mais ce sont les aiguilles. L'horloger n'a jamais pu réparer la montre parce qu'il n'a pas voulu laisser la montre. Nous ne comprenons pas cela parfois. Ton fardeau, il est temps pour toi ce matin de le laisser à Dieu. Ta blessure, ta souffrance, le combat qui est là dans ta vie, peut-être problème dans ton caractère, ce qui est là, qui pèse, il est temps pour toi de le laisser au pied du Seigneur et de transférer ce problème. Parce que c'est ce que le texte que nous avons lu nous dit. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Vous remarquez, Dieu ne dit pas juste faites connaître vos besoins par des prières. Il dit avant, ne vous inquiétez de rien. Autrement dit, rejetez l'inquiétude. Autrement dit, ça veut dire quoi? Transférez l'inquiétude. Laissez-la à Dieu et apportez maintenant votre besoin et la promesse et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Dieu veut nous donner la paix ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. C'est que là, de manière instantanée, Dieu est capable de donner la paix. Et que dans les jours à venir, peut-être dans les mois et dans cette année, Dieu va répondre à ton problème. La Bible dit que dans l'année qui a suivi, eh bien Dieu a répondu à son problème. Vous savez, transférer, premièrement, c'est se décharger d'un poids. C'est permettre à Dieu de prendre le problème en main. Et c'est ensuite moi de m'appuyer sur Christ et non plus sur moi-même. Je m'appuie sur lui. Transférer le problème à Dieu. La parole de Dieu nous parle de cette prière. Et elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Elle va rester jusqu'à ce qu'il y ait une parole, quelque chose qui se passe. Et Élie va lui dire, même si Élie était un sacrificateur qui était un petit peu à côté, hein, malgré tout cela, Dieu va servir de lui, il va lui dire, va en paix. L'Éternel et que Dieu exauce la prière. Elle va le saisir comme une parole de Dieu. Vous savez, une fois que tu fais la prière transfert, Dieu te donne une paix. Vous savez ce que Dieu nous donne? Dieu nous donne une parole. C'est-à-dire, il a une parole pour ton problème. Il a une parole pour ce que tu es en train de traverser. Ce n'est pas un verset biblique de la Bible mort, c'est une parole vivante. Cette parole est vivante parce que nous croyons, nous plaçons notre confiance en lui. Et cette parole produit la vie. J'ai une bonne nouvelle aussi, vous savez ce que la Bible nous dit ? C'est que Dieu fait au-delà de ce qu'on lui demande. C'est que Dieu n'a pas juste donné un fils à Anne, il en a donné plusieurs. C'est que quand tu viens devant Dieu et que tu donnes ton fardeau, non seulement Dieu résout ton problème, mais il fait au-delà de cela. Il veut faire au-delà de cela ce matin. Et la Bible dit, il fait infiniment au-delà, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La question ce matin, c'est est-ce que tu veux laisser ta foi être fortifiée, ta foi être épurée et dire Seigneur, je veux ce matin, c'est que l'Esprit qui peut faire ça, je ne peux pas le faire, mais l'Esprit révèle les mensonges de Satan. Il révèle les raisonnements, il révèle les sentiments qui sont là. Il révèle ces choses et il te dit alors que c'est comme une révélation. Je décide ce matin de me dissocier, je décide de laisser cela. Je regarde à la croix et je crois que Dieu a une réponse pour ma vie. Je crois que Dieu veut me vivifier. Inutile de vous dire que lorsque je goûte à cela, ensuite j'ai le désir de servir Dieu. J'ai le désir de lui obéir, j'ai le désir d'avancer avec lui. Parce que je vois combien il m'aime, combien il est vivant. Amen. On va baisser nos têtes ensemble. Et la parole de Dieu nous dit que Anne pria, elle dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel ». Elle s'est réjouie. Quand j'étais attentif à ce que votre pasteur a donné pendant la Sainte-Cène, il a parlé de Zacharie. Et dans ce qu'il a lu, j'ai noté 12-10, il parle en fait de la prière, de recevoir, il y a la prière de la supplication et la grâce. Tiens, j'aimerais le relire simplement. Zacharie 12-10. Pourquoi je le lis ? Il ne savait pas si j'allais prêcher. Je crois que le Saint-Esprit veut vraiment faire ça ce matin. Regardez ce qui est dit, Zacharie 12-10. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Et puis, il ne s'est pas arrêté là, mais il a lu ensuite. « Et en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David. » Ce matin, qu'est-ce que Dieu veut faire ? Dieu, par son esprit, veut t'amener dans une prière, mais vous avez remarqué la supplication associée à la grâce, autrement dit la faveur imméritée. Dieu veut t'amener, oui, à lui demander, mais à recevoir. Et la Bible dit, une source sera ouverte. Le seul désir de mon cœur ce matin, parce que c'est ce que j'ai reçu, c'est simplement que tu crois que Dieu résout ton problème, que tu déposes ton fardeau. Simplement que tu crois que le Seigneur a une source de vie pour toi. Simplement que tu l'acceptes, qu'au-delà d'un message, tu entends la voix de Dieu, tu laisses l'espérance, la joie, la foi, eh bien, se développer dans ton cœur. Et tu vas voir le Seigneur se glorifier. Oh, je me réjouis. Parce que je crois que le Seigneur aime Moissac. Il vous aime. Et parfois, la prière est un fardeau, alors que la prière devrait servir à déposer nos fardeaux. Peut-être la prière est un fardeau pour toi, mais ce matin, sache que la prière est là pour décharger ton fardeau. Et c'est dans cela que la prière n'est plus un fardeau, mais devient un plaisir. Alors je te pose la question et on va prier. Qu'est-ce qui te pèse ce matin ? Parce que c'est cela qui intéresse Dieu. Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur ? Il t'invite ce matin, il ne forcera pas. Les choses ne se font pas toutes seules. La parole est annoncée, Dieu va agir. La présence de Dieu va se manifester, elle se manifeste déjà. Mais c'est à nous de choisir si nous écoutons sa parole ou si nous restons dans nos forteresses de raisonnement. Mais j'aimerais dire, si nous quittons nos forteresses de raisonnement, le Saint-Esprit va nous vivifier. Il veut vivifier les cœurs. Il connaît les cœurs. Il veut se manifester. Qu'est-ce qui te pèse ? Est-ce que ce qui te pèse, c'est une amertume qui est là dans ton cœur depuis longtemps ? Une amertume par rapport à un événement passé qui a détruit ta vie ? Quelque chose que tu n'as pas réglé, cette amertume ce matin, Dieu veut l'enlever et Dieu veut mettre le pardon. J'avais cette pensée comme une pensée, je crois, qui parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a connu dans le passé des temps où, eh bien, quelque chose a été brisé. Quelque chose a été brisé. Dieu veut te redonner les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il y a des événements dans la vie qui nous font perdre le contact avec Dieu. Font perdre la vie de Dieu. Dieu veut s'adresser à quelqu'un ce matin et dire « Je voudrais tellement ce matin prendre ton fardeau. Je voudrais véritablement agir dans ton cœur. » Qu'est-ce qui te pèse ? Est-ce que c'est la crainte ? Tu es dans une crainte, une forteresse de peur ou peut-être la culpabilité. Dès que tu veux t'approcher de Dieu, tu te sens coupable devant Dieu. Dieu veut te libérer. Peut-être que c'est l'impossibilité. Tu es dans une situation impossible et ça t'écrase et tu n'arrives pas à croire que Dieu peut changer l'impossibilité. Peut-être que ce matin, ce qui te pèse, c'est la honte. C'est la honte. Mais quel que soit ce qui te pèse, il t'appelle. Il t'appelle. Non seulement ce matin, il veut te toucher, mais il t'appelle aussi dans les jours à venir à déposer ce fardeau. Je vais être très pratique ce matin. Je vais faire un appel tout à l'heure pour déposer ces fardeaux. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Simplement, il va falloir continuer votre vie en écrivant. Vous pouvez l'écrire sur une feuille ou simplement en l'ayant en tête. Seigneur, ce fardeau-là, je crois que tu le prends en main. Et je vous assure que si vous le faites, si vous laissez ce fardeau, vous dites, Seigneur, cette chose-là, je ne m'en sors pas. Elle me détruit. Je ne veux plus la porter. Je te la porte maintenant. C'est comme ça que ma vie de prière a changé. Pendant 10 ans, j'ai prié. J'étais fatigué de prier. J'ai eu un pasteur qui s'appelle Guy Galifot, un homme de Dieu qui m'a appris à vivre la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Et j'ai compris que la vie de prière, ce n'était pas de dire des choses. Mais à un moment donné, j'ai fait cela. J'ai pris ma feuille. J'ai écrit « mois de novembre 2016 ». Et j'ai commencé à écrire tous les fardeaux qui étaient sur mon cœur. Là où j'étais fatigué, j'ai commencé à écrire les fardeaux. Et j'ai pas prié longtemps. Mais quand je priais, je disais « Seigneur, je m'attends à toi. Je suis fatigué. » Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a répondu. Dieu, sur certains sujets, m'a donné une parole en attendant la réponse. Sur d'autres sujets, il a répondu. Ça s'est fait parfois dans le mois, ça s'est fait parfois 3 mois après, ça s'est fait parfois plus tard. Mais à chaque fois que je faisais cela, Dieu répondait, ma foi augmentait et je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Dieu répond au fardeau. Oui, parce que parfois nous prions Dieu et Dieu dit, oui, je vois ta prière. Et Dieu commence à se mouvoir et puis il se rend compte qu'après la prière, tu ne crois plus, tu as repris les choses en main. Alors Dieu s'arrête et il te laisse faire. Ce matin, Dieu veut prendre les choses en main. Parce que Dieu connaît ton fardeau et tes combats. Il désire intervenir. Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te pèse? Si quelque chose te pèse et que tu veux le déposer, je t'inviterai à te lever à ta place. Comme pour dire, Seigneur, viens à moi, j'ai besoin de toi. Et ce qu'il te pèse, bien, tu vas pouvoir le déposer à Dieu. Dieu veut prendre ton sujet complètement en main. Peut-être que tu t'inquiètes pour tes enfants, t'inquiètes pour les membres de ta famille. Peut-être que ce qui a besoin d'être déposé, c'est une déception. Peut-être ce sont tes finances. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est là? Eh bien, tu peux le déposer à Dieu. Et dire, Seigneur, je veux ta paix en échange. Je veux que tu t'occupes de mon sujet. Amen.